soit numérique et tais-toi.
Le numérique nous rapproche de cette réalité.
Allez, je vais t'apprendre 2-3 petits trucs.
Le numérique matérialise la réalité qui nous entoure.
J'ai rien compris.
Non, ou alors c'est moi.
Non, moi non plus, j'ai rien compris.
Tais-toi, va fada.
Le numérique, c'est avant tout du traitement de symboles.
Tais-toi.
Qu'est-ce que tu racontes? Tu connais rien, toi.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de Sois numérique et tais-toi, l'émission qui, chaque semaine, aborde en 10 minutes une des multiples questions sur les technologies numériques et informatiques qui s'occupent de nos tickets de caisse, de nos factures d'électricité et de nos séjours à l'étranger. Et tant pis pour vous si vous n'avez pas lu les 97 pages de conditions générales d'utilisation. Pour le 4e épisode de notre série de chroniques sur le paiement dématérialisé, nous voici au paiement qui a connu un essor considérable au cours des années 2010. Le paiement en ligne sur Internet. Combien de fois avez-vous lu les chiffres de votre carte bancaire pour les recopier sur un écran d'un site de commerce en ligne? Peut-être même que vous payez directement après avoir enregistré ces chiffres sur le serveur du site marchand. Toujours est-il qu'on ne sait jamais évaluer la sécurité de ces transactions de manière fiable, mais qu'on achète de plus en plus en ligne. De quoi parle-t-on? Au cours des dernières chroniques, nous avons vu qu'avec le système du virement bancaire, il suffit d'un accord entre deux banques pour que l'argent soit débité dans l'une et crédité dans l'autre, sans déplacer des kilos de pièces. Nous avons ensuite vu que cet accord entre banques peut être incarné par une carte bancaire et un terminal de paiement, et qu'un client et un commerçant pouvaient faire une transaction dématérialisée sans aller dans leur banque. Eh bien, le paiement par carte bancaire en ligne, c'est la même chose, sauf que le client n'a même pas besoin d'être à proximité du commerçant. Il envoie ses données au terminal de paiement du commerçant par le biais d'une connexion Internet. En gros, si vous êtes client, vous fournissez votre numéro de carte bancaire, la date de validité, le cryptogramme à 3 chiffres qui figure au dos de la carte, et cela valide le paiement. Facile. Bon, ça c'était avant, parce que rapidement, les fraudes ont été massives. Et désormais, il y a des informations supplémentaires à fournir pour vérifier l'identité du donneur d'ordre. Mais nous en reparlerons. Revenons sur cette transaction. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais la plupart des informations qui circulent sur Internet sont diffusées en clair. C'est-à-dire qu'elles sont lisibles par n'importe quelle machine ou individu qui se branche sur le réseau pour récupérer les informations qui circulent. C'est le cas de vos courriels, par exemple. Lorsque vous voulez faire circuler des données sensibles, il faut donc chiffrer ces données. Cela veut dire les rendre lisibles par l'émetteur et le récepteur, mais illisibles par une tierce partie qui n'aurait pas la clé de chiffrement. Concernant le paiement en ligne, vous avez certainement déjà reçu le conseil qui consiste à vérifier l'existence d'un petit cadenas sur votre barre d'adresse sur les sites de paiement. Ce symbole signifie que la transaction est chiffrée et que, par conséquent, votre numéro de carte bancaire ne sera pas diffusé en clair, mais il sera chiffré lorsqu'il sera envoyé sur le réseau jusqu'au terminal du commerçant. Bon, mais concrètement, qu'est-ce que veut dire ce petit cadenas rassurant? Lors de ma chronique sur la navigation web, je vous avais expliqué que les communications entre ordinateurs sur le réseau fonctionnaient avec un protocole appelé HTTP. Dans le cadre de ce protocole, les données sont envoyées en clair sur le réseau. Cela ne convient donc pas au paiement bancaire. La présence du symbole du cadenas signifie que le protocole utilisé est HTTP Secure ou HTTPS. Cela signifie que la connexion entre votre ordinateur et le serveur de paiement est chiffrée par le protocole TLS. TLS pour Transport Layer Security, c'est-à-dire sécurité de la couche de transport. Mais réfléchissons un instant. Qu'est-ce qu'un protocole de sécurité? C'est une convention de chiffrement des données avec des calculs puissants qui sont sûrs tant qu'ils ne sont pas violés. Ainsi, l'ancêtre de TLS s'appelait SSL, Secure Socket Layer, lancé en 1994. En 2014, il a été définitivement banni car une faille dans son fonctionnement a été révélée. Dans un article publié en 2015 dans la lettre du CNRS, on y apprend que des chercheurs ont repéré une faille dans le protocole TLS, qui est encore utilisé pour les paiements en ligne aujourd'hui. L'article, intitulé « Logjam, la faille qui met Internet à nu », explique notamment que la sécurité de ces protocoles dépend de la taille des clés de chiffrement. En gros, si la clé comprend 600 chiffres, elle est plus solide que si elle en a 180. En revanche, la puissance de calcul nécessaire pour faire fonctionner cette sécurité est plus grande. Autrement dit, si vous utilisez un protocole plus sûr, cela vous coûte plus cher. L'article explique en somme que les gestionnaires de ces systèmes de paiement ont tendance à limiter la sécurité par souci d'économie. Ce constat est fondamental. Dans le domaine de la sécurité informatique, la logique économique s'oppose à celle d'une sécurité optimale des activités. Si l'on revient à nos achats en ligne, les fraudes massives par l'utilisation de coordonnées bancaires ont conduit les autorités en charge de la protection des consommateurs à imposer des contraintes au système de paiement. C'est pourquoi, aujourd'hui, il est de moins en moins facile de payer en ligne sans donner des informations qui prouvent que nous sommes bien le propriétaire de la carte bancaire utilisée. Mais les banques et les acteurs commerciaux n'ont aucun intérêt à mettre en place une sécurité qui leur coûte plus et qui contraint les acheteurs. Certains établissements bancaires ont proposé des boîtiers à leurs clients, ou lors d'un achat en ligne, ils introduisent leur carte bancaire et tapent leur code secret. La banque renvoie alors un code de validation du paiement. Un système plutôt sûr, mais très contraignant. Aussi, il est progressivement abandonné pour faire place à l'envoi d'un code par SMS censé vérifier l'identité du donneur d'ordre. Le problème, c'est que les banques qui ont mis en place ce système le considèrent comme quasi inviolable et rechignent à rembourser les clients victimes de vol considérés comme négligents. Or, il est relativement facile de voler un numéro de téléphone portable. Le 30 août 2019, le cofondateur de Twitter a même été victime de cette technique d'échange de SIM, ou, dans la langue de Jack Dorsey, de SIM swapping. En gros, il vous suffit de contacter le service client de l'opérateur téléphonique de la personne en expliquant que vous avez perdu votre carte SIM pour en activer une autre. Le service vérifie votre identité en vous demandant quelques informations personnelles, date de naissance, adresse, numéro de client, et valide ensuite l'attribution du numéro à la carte SIM du voleur. Bref, valider un paiement avec un code par SMS, ce n'est pas sûr. Et l'association Que Choisir dénonce l'attitude des banques. Je cite « 20% des escroqueries ne sont jamais indemnisées ». Derrière cette pratique inacceptable, notre enquête démontre que l'envoi du SMS pour authentifier les paiements constitue un véritable alibi pour limiter les remboursements. Bon, dans ce contexte, une directive européenne, la Directive sur les services de paiement, DSP2, vise à stopper cette méthode de validation des paiements en contraignant les commerçants et les banques à une sécurité renforcée à compter du 14 septembre 2019. En vue de renforcer la protection des consommateurs. Mais alors, et nous dans tout ça? Est-ce qu'on est mieux protégé depuis? Eh bien non, car plus de sécurité pour le consommateur, c'est plus de dépenses pour les banques et les commerçants. Dans un article des Échos du 26 août 2019, on apprend finalement que plusieurs pays, dont la France, vont autoriser l'utilisation de ce système jusqu'à 2022, pour leur laisser le temps de se mettre en conformité à la directive DSP2. Bref, la protection du consommateur attendra. En attendant, il est important de se prémunir contre le vol de numéros de téléphone portable. Or, si vous avez compris cette technique, cela veut dire qu'il faut protéger vos données personnelles. Donc, ne pas diffuser sa date de naissance sur les réseaux sociaux, stocker ses factures dans des espaces sécurisés, détruire ses documents personnels avant de les jeter, utiliser des mots de passe différents pour chacun de vos services. Bref, avoir une bonne hygiène numérique. Mais pour être encore plus efficace, vous pouvez aussi contacter directement votre service client par téléphone et leur demander quels sont les éléments qu'ils vous demanderaient si vous vouliez changer de carte SIM. Vous aurez alors une idée de votre vulnérabilité et des données que vous devez absolument protéger. Allô, SFR ? J'ai mis la main sur les données personnelles d'un ami et je voudrais savoir si c'est suffisant pour swapper sa carte SIM. Vous pouvez me renseigner ?